Bonjour chers amis auditeurs. Les saints de la semaine nous amènent du lundi 26 avril au dimanche 2 mai inclus. Lundi 26 avril, sainte Alida ou Alda, qui fut tertiaire des humiliés et décéda en 1309. Sienne en Toscane fut la ville de toute sa vie. Elle y épousa le jeune Bindo Bellanti, tout comme elle, de la noblesse siennoise. Elle aima cet époux dont la bonté était aussi grande que la piété. Lorsqu'il mourut, elle n'avait que 30 ans et se consacra alors dans le tiers ordre des humiliés, des humbles. Puis elle soigna les malades à l'hôpital de sa ville jusqu'à sa mort. Mardi 27 avril, sainte Zita, qui fut servante à Luc, est morte en 1278. C'était une petite vendeuse de légumes qui s'en allait au marché de Luc pour ses parents. À 12 ans, elle fut placée dans une famille comme servante et ne la quitta plus. Pour ne pas déranger son service, elle se levait plus tôt afin d'aller entendre la sainte messe, jeûner pour donner aux pauvres une part de sa nourriture, supporter avec patience et sourire les jalousies des autres domestiques, qui parfois même la dénonçaient avec calomnie. Sa sainteté fut reconnue après sa mort, tant étaient grandes les faveurs que le petit peuple obtenait en lui demandant son intercession. Née de parents pauvres dès l'âge de 12 ans, sainte Zita vendit des fruits dans les rues et à 18 ans, elle entra comme domestique dans la riche famille des Fatinelli et demeura à leur service avec une patience admirable jusqu'à sa mort. Sainte Zita est la patronne des employés de maison. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Zita. Ce mardi 27 avril est également la fête de bienheureux Amédée IX, qui fut duc de Savoie et mourut en 1472. Duc de Savoie, il est né à Thonon-les-Bains. À 17 ans, il épousa la sœur du roi Louis XII. Ils eurent 7 enfants et formèrent un ménage très heureux. Atteint d'épilepsie, il accepta cette maladie comme une participation à la souffrance du Christ. Il fut alors grandement assisté par sa femme dans l'exercice du pouvoir. Il fut d'ailleurs obligé d'abdiquer en sa faveur. Fréquent pèlerin du Saint-Suaire, qui se trouvait alors à Chambéry, il laissa surtout le souvenir d'une grande charité envers les pauvres. Amédée de Savoie met les pauvres à l'honneur et les riches au rencard, disait le duc de Milan, François Sforza. Il fut donc béatifié en 1677 suite à une demande faite par saint François de Sales en 1612. À Vercueil, dans le Piémont, en 1472, le bienheureux Amédée IX, duc de Savoie, fut donc plus porté à la dévotion qu'à la gestion des affaires publiques et favorisa par son action et son zèle continu la cause des pauvres, des veuves et des orphelins. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Amédée. Mercredi 28 avril, sainte Valérie de Milan, qui fut martyre et mourut en 171. Et son mari, également, Vital de Ravenne, dont le culte a été supprimé en 1969, fut également martyr à Ravenne, et ils furent tous les deux parents supposés des saints Gervais et Protais. Dénoncé comme chrétien, Vital fut jeté au fond d'un puits et étouffé sous un tas de pierres et de sable. À quelque temps de là, Valérie fut battue et torturée au point qu'elle succomba à ses blessures 2 jours plus tard. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Valérie. Est également fêté ce jour-là Pierre-Marie Chanel, qui fut prêtre mariste et martyr en Océanie et mourut en 1841. Pierre-Marie Chanel était originaire du diocèse de Belley et fut le premier missionnaire en Polynésie, c'est-à-dire en Océanie. Les récits des exploits des missionnaires qu'il a lus avec passion dans son enfance l'ont conduit au séminaire, puis chez les pères maristes pour être envoyé dans les pays lointains. C'est ainsi qu'il débarqua le 7 novembre 1837 dans la petite île de Futuna en Océanie. Là, il ne rencontre pas beaucoup de succès dans son annonce de l'Évangile. Il éveille cependant l'intérêt des jeunes. La conversion du fils du chef de l'île le fera même condamner et lui vaudra de mourir martyr, battu à coups de bâton dans sa case jusqu'à ce que mort s'ensuive. Son action et sa mort ne seront pas vaines, puisque quelques mois plus tard, toute l'île se convertit. Il sera canonisé en 1954. En 1836, Pierre Chanel, natif de Cuette près de Montrevel, embarque pour l'Océanie. Il écrit à ses amis, dans une mission aussi difficile, il faut que nous soyons des saints. Donc il naquit à Cuette près du Bourg-en-Bresse le 12 juillet 1803. Il fut baptisé le lendemain et mourut le 28 avril 1841 sur l'île de Futuna et fut proclamé patron de l'Océanie. Le 200e anniversaire de sa naissance fut l'occasion d'une célébration mémorale à Poy, en présence de la population de l'île, de délégations des îles voisines et même d'une représentation pontificale mandatée par le pape Jean-Paul II. Ce fut Monseigneur Patrick Coveney, délégué apostolique pour les îles du Pacifique et qui avait pu seulement arriver en fin de journée. Il fut remplacé par Michel Calvé, archevêque de Nouméa. Après 9 ans de ministère dans le diocèse de Belley, au service d'une paroisse rurale et dans l'éducation des enfants, il entra dans la Société de Marie qui venait de se fonder et fut donc envoyé avec quelques compagnons à la mission de l'Océanie occidentale. Il y eut beaucoup d'embûches, il connut la faim, mais fort d'une douceur extraordinaire, il en convertit quelques-uns à la foi, et parmi eux donc le fils du roi lui-même, qui, irrité, donna alors l'ordre de le tuer. Il fut le premier martyr de l'Océanie. Très bonne fête à toutes les personnes qui s'appellent Pierre-Marie Chanel. Jeudi 29 avril. Sainte Catherine de Sienne, qui fut religieuse dominicaine et docteur de l'Église, morte en 1380. Catherine, benjamine d'une famille très nombreuse, 24 frères et sœurs, entend très jeune l'appel à se consacrer à Dieu. À 16 ans, elle devient tertiaire dominicaine. Tout en vivant sa vie d'austérité et de prière au milieu de sa famille. Elle fait vœu de virginité, mais le petit groupe des amis qui l'écoutent et la soutiennent, les Catherini, l'appellent maman. À 16 et aux raisons, la font vivre en étroite union avec le Christ, tout en se préoccupant des réalités de la vie. Elle vient en aide aux pauvres et aux malades de Sienne. Elle décrit et elle écrit aux grands de ce temps. Son principal souci est l'unité de l'Église. Sans complexe, elle écrira au pape, alors en Avignon, une lettre brûlante où elle le presse de revenir à Rome. Elle ira même le chercher. Lorsque la chrétienté occidentale sera divisée entre plusieurs papes, elle soutiendra Urbain VI et déploiera des trésors d'activité et de diplomatie pour rassembler l'Église autour de lui. Elle prend aussi parti dans les luttes où s'affrontent les villes italiennes. Elle, la recluse de Sienne, voyage inlassablement comme médiatrice dans le nord de l'Italie et le sud de la France. Pourtant, cette activité débordante n'est pas le tout de Sainte Catherine. Ce n'est pas que la face apparente d'une intense vie mystique, avec des extases durant lesquelles ses disciples, émerveillés, copie les prières qui s'échappent de ses lèvres. Son dialogue, qui est aussi un des classiques de la langue italienne, retrace ses entretiens enflammés avec le Christ, qu'elle rejoignit d'ailleurs à 33 ans dans la vision béatifique. Elle a été proclamée docteur de l'Église en 1970. Elle est copatronne de l'Europe, où elle est célébrée par une fête. Elle entra avec un regard sûr et des paroles de feu dans le vif des problèmes sociaux et politiques qui ont déchiré l'Europe de son époque, dira Jean-Paul II en 1999. Il y a d'autres saints qui sont patrons et copatrons de l'Europe. Saint Benoît, proclamé patron de l'Europe par Paul VI en 1964. Saint Cyril et Méthode, proclamé copatron en 1980 par Jean-Paul II. Et trois saintes proclamées copatronnes de l'Europe en 1999 par Jean-Paul II. Sainte Brigitte de Suède, Sainte Catherine de Suède et Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix. Admise parmi les sœurs de la pénitence de Saint-Dominique, elle s'appliqua à connaître Dieu en elle, à se connaître en Dieu et à reproduire l'image du Christ crucifié. Avec force et inlassablement, elle lutta pour poursuivre la paix, ramener dans sa ville l'évêque de Rome et refaire l'unité de l'Église. Elle mourut à Rome en 1380, laissant de précieux documents de très haute doctrine spirituelle. Très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Catherine, selon Catherine de Sienne. Vendredi 30 avril, Saint Robert de Molem, qui fut abbé, fondateur de Cîteaux, et mourut en 1110. Ce jeune bourguignon entra très jeune chez les bénédictins de Moutier-la-Selle dans l'Aube. À peine son noviciat terminé, il fut nommé prieur. Les bénédictins de Tonnerre, ayant voulu l'avoir comme père abbé, il accepta, mais les ayant trouvés très relâchés et surtout peu réformables, il prit congé d'eux et revint à Moutiers. Quelques ermites l'invitèrent à se mettre à leur tête et il partit avec eux dans la forêt de Molem en Côte d'Or, dans des petites huttes de branchages autour d'une petite chapelle. Les recrues et les dons affluèrent. Les huttes disparurent. Un monastère se construisit et les ermites devinrent plus soucieux de leur confort que de l'ascèse. Saint Robert les quitta, mais les dons cessèrent en même temps. Ils lui supplièrent de revenir et il revint. La ferveur, elle, ne revint pas. Alors, avec une vingtaine de moines plus décidés, dont Saint Albéric et Saint Étienne Harding, il se fixa donc à Cîteaux pour y établir la vie monastique qu'il rêvait. Ainsi naquit l'ordre cistercien en 1098. Mais le pape lui intima l'ordre de reprendre la tête de son monastère. Il obéit et eut la consolation de voir ses moines revenus à de meilleures dispositions. Il mourut ainsi en paix. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Robert. Samedi 1er mai, Saint Philippe, un des apôtres du Christ au 1er siècle. Pendant des siècles, Saint Philippe et Saint Jacques ont été fêtés au 1er mai, jour où leurs reliques furent transférées dans la basilique romaine des 12 apôtres. Récemment, ils ont laissé leur place à l'humble Saint-Joseph pour réconforter les travailleurs. Pas seulement ceux de notre Europe, mais tous les travailleurs obscurs, exploités et écrasés dans les ateliers d'Asie ou d'Amérique latine. Philippe était de Bethsaïde, sur la rive nord du lac de Tibériade, tout comme André et son frère Pierre. Jean le Baptiste, qui se tenait à Béthanie, au-delà du Jourdain, avec deux de ses disciples, leur dit en voyant Jésus « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples suivirent Jésus. L'un d'eux était André, le second sans doute Philippe. Jésus leur dit « Viens, suis-moi. » Tout de suite, Philippe évangélise Nathanaël. Nous avons trouvé le Messie. Viens et vois. On retrouve Philippe au moment de la multiplication des pains. Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que tous ces gens puissent manger ?» Peu avant la Passion, des Grecs, qui veulent voir Jésus, s'adressent à lui. « Nous voulons voir Jésus. » Au soir de la dernière scène, Philippe, lui, veut voir Dieu. « Montre-nous le Père et cela nous suffit. » Philippe, qui me voit, voit le Père. Philippe, le disciple qui veut voir et fait voir. Jacques est moins connu, lui, Les exégètes distinguent plusieurs Jacques autour du Seigneur. Jacques le majeur, fils de Zébédée et frère de Jean. Jacques, fils d'Alphée, dont on sait seulement qu'il fut apôtre. Et celui-ci, Jacques, frère du Seigneur, cousin du Seigneur, de sa parenté et originaire de Nazareth. Il aurait dirigé l'église de Jérusalem et serait mort martyr vers 62. C'est lui que nous fêtons également aujourd'hui. Mais le pape Pie XII a institué en 1955 la fête de Saint-Joseph artisan destinée à être célébrée le 1er mai de chaque année. Nous fêtons donc aujourd'hui Saint-Joseph comme artisan et travailleur manuel. Charpentier de son métier, il coopéra par le travail de ses mains à l'œuvre créatrice et rédemptrice, tout en gagnant le pain de la Sainte Famille, et avec Marie, en éveillant à la vie des hommes l'enfant que Dieu lui avait confié. Le charpentier de Nazareth travailla pour subvenir aux besoins de Marie et de Jésus et initia le Fils de Dieu aux travaux des hommes. C'est pour cela qu'il est le modèle et le protecteur des travailleurs chrétiens qui le vénèrent en ce jour où dans de nombreux pays du monde on célèbre la fête du travail. Dimanche 2 mai, Saint Boris de Bulgarie, mort en 907. Né et élevé dans le paganisme, le prince Boris fut instruit de la foi chrétienne grâce à l'influence d'une de ses sœurs. Il s'était d'abord tourné vers les princes latins à l'occasion d'une alliance militaire avec les Francs, mais il préférera Byzance et lui, son armée et son peuple furent baptisés en 864 par un évêque venu tout spécialement de Byzance. Par la suite, le patriarche de Constantinople envoya des missionnaires. Il put établir une église quelques années plus tard avec un archevêque venu de Constantinople et 10 évêques. Il avait envisagé d'abandonner les affaires du royaume, mais son fils rétablit le paganisme. Boris chassa le prince Vladimir, y installa son fils Siméon, qui était chrétien, et il entra dans la vie monastique avant de s'endormir en paix. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Boris. À la semaine prochaine.